RRB, pour être les premiers et les mieux informés.
Radio Rythme Bleu, il est 17h45, Info Soir, c'est avec vous Isabelle Pelletier.
Les internats des établissements de la DEC en province sud n'ont pas rouvert depuis le début des troubles insurrectionnels, un service pourtant financé par les collectivités telles que la province sud et le gouvernement qui s'en émeuvent. En raison du vent et de la houle, le Maridet a annoncé l'annulation de ses rotations pour ce lundi entre Nouméa et le Mont-d'Or Sud. Problème, les particuliers ont recours à des navettes privées qui ne respectent pas toujours les conditions de sécurité. L'ADI s'adapte à la crise et apporte un accompagnement personnalisé aux entrepreneurs à travers une écoute, mais aussi de prêts à taux zéro. Les inscriptions pour les écoles primaires de la province sud se terminent au 31 août. La collectivité invite les parents qui n'ont pas encore inscrit leur enfant à faire la démarche en ligne. La Fédération calédonienne de football annonce l'arrêt des compétitions officielles pour la saison en cause les retards et les difficultés financières accumulées depuis le 13 mai. Et puis clap de fin pour les JO de Paris 2024. La cérémonie de clôture avait lieu ce matin pour nous. La France a obtenu la 5e place au classement des médailles. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce journal. Comment se fait-il que les internats des établissements de la DEC en province sud n'aient pas rouvert depuis les émeutes? Pourraient-ils rester fermés jusqu'à la fin de l'année? C'est la question que pose la présidente de la province sud et la membre du gouvernement en charge de l'enseignement dans deux courriers distincts adressés à la directrice de l'enseignement catholique, Karen Cazot, Jean-François Baudin.
Oui, la province ne comprend pas cette décision, d'autant que sa présidente dit ne pas avoir été informée de la fermeture des internats qui pourrait se prolonger jusqu'à la fin de l'année. Même son de cloche de la part d'Isabelle Champmoreau. Elles ont appris cette décision toutes les deux en découvrant que la DEC avait fait une demande de mise en chômage partiel du personnel de ses internats. Sonia Baquet s'étonne donc de cette décision, surtout que le Congrès a voté le 28 novembre 2023 une délibération sur le financement de l'enseignement privé et que dans ce cadre, la province a tenu ses engagements, et même plus, puisqu'elle a accepté de prendre aussi à sa charge la participation des communes. En tout, la province a donc versé à la DEC le 19 avril 2024 620 millions de francs destinés au fonctionnement des internats. Aussi, écrit Sonia Baquet, je trouve particulièrement choquant d'apprendre que cet argent n'est manifestement pas utilisé conformément au terme de la convention et que vous envisagez en sus de demander le chômage partiel pour les personnels censément rémunérés grâce aux financements provinciaux. Sonia Baquet entend donc demander à la DEC le remboursement des sommes inutilisées ou utilisées à d'autres fins que celles prévues. Isabelle Champmoreau aussi a écrit à Karen Cazot. Le gouvernement a en effet déjà versé de son côté les deux tiers des 550 millions qu'il s'est engagé à verser à la DEC et s'apprêtait à verser le reliquat début septembre. La membre du gouvernement a rencontré la directrice de l'enseignement catholique pour évoquer cette situation et s'est étonnée à cette occasion de la fermeture des internats compte tenu de la participation financière de la Nouvelle-Calédonie. « Je suis opposée à cette approche », écrit Isabelle Champmoreau, « et je considère que vous devez honorer les services à rendre aux élèves sur la base des financements des collectivités, conformément au cadre fixé par nos conventions. » Isabelle Champmoreau, elle aussi, rappelle que dans la convention signée, les sommes attribuées peuvent faire l'objet d'une demande de remboursement si elles sont utilisées à d'autres fins que celles prévues. Affaire à suivre.
Le conseil coutumier de l'RPI Chichamouki demande un allègement des barrages qui impactent lourdement le quotidien des populations, Jean-François.
Oui, dans un communiqué, il s'élève contre les blocages qui touchent une partie de l'aire coutumière et il lance un appel à l'ensemble des autorités coutumières des 8 districts pour un allègement de ce dispositif qui pourrait causer des dommages collatéraux sur le long terme, notamment sur le plan sanitaire ou scolaire. Le conseil coutumier de l'RPI Chichamouki relève également la difficulté de ravitaillement en denrées alimentaires dans les commerces en raison de la persistance de ces barrages.
Depuis ce matin, les rotations des navettes maritimes sont fortement perturbées entre le Mont-d'Or Sud et Nouméa. Le Maridet a notamment stoppé ses transferts. Il cumule à lui seul 130 places, ce qui amène les voyageurs à s'agglutiner sur les navettes privées. Cet après-midi, certains bateaux, supposés accueillir 4 à 6 personnes, se sont retrouvés avec à leur bord 16 passagers. Une prise de risque importante compte tenu des conditions météo défavorables. C'est ce qu'explique Michel Baudry, adjoint au maire du Mont-d'Or, en charge notamment de la sécurité.
Moi, ce que je voulais quand même souligner, c'est que hier encore, avec la pluie, le vent qu'il y avait, aujourd'hui ça continue, il y a quand même des privés qui prennent jusqu'à 16 personnes. Il n'y en a que un ou deux qui le font. Tous les autres respectent néanmoins la charge, mais il y en a au moins deux là qui prennent jusqu'à 16 personnes dans leur bateau. C'est vraiment problématique, c'est même très très dangereux. Quand il arrive un accident, quand ça risque de retomber sur tout le monde. Donc je pense que la gendarmerie risque de faire maintenant des contrôles un peu plus approfondis pour le bien de tout le monde. C'est, voilà.
Les conditions météorologiques restent défavorables pour demain. Les navettes maritimes sont pour l'instant maintenues, mais elles risquent d'être à nouveau suspendues. La municipalité invite encore une fois les habitants à rester prudents. L'ADI, l'Association pour le droit à l'initiative économique, s'est adaptée à la crise avec notamment un accompagnement personnalisé des entrepreneurs déjà en activité et un suivi plus pointu des dossiers en cours, notamment lorsqu'il concerne des reconversions, Gilles Ménage.
L'après 13 mai aura vu chuter de manière drastique le nombre de dossiers de demande de microcrédit et d'accompagnement des projets à l'ADI. En mai, le chiffre était proche de zéro. En juin, il était de 15 pour une moyenne d'une centaine d'appels mensuels concernant des informations pour lancer ou développer une activité. Une situation qui, après 3 mois, commence seulement à revenir à la normale avec 75 demandes en juillet et des profils qui commencent à varier. Les précisions d'Alexandre Dufault, le directeur des opérations à l'ADI.
Nous avons en fait tous les cas. Effectivement, il y a des personnes qui avaient mis leur projet en attente quand les événements ont commencé et que voilà, maintenant que la situation est plus stable et qu'on peut se déplacer facilement, ils relancent leur projet, donc ils nous contactent. On commence à voir de plus en plus des personnes qui ont perdu leur emploi récemment ou qui vont en perdre dans les semaines ou les mois à venir et qui, et cette perte d'emploi est un peu un facteur déclenchant pour lancer leur projet. C'est souvent un projet qu'ils pouvaient avoir par ailleurs en tête et c'est la perte d'emploi qui permet de gérer le top départ pour travailler plus sérieusement dessus. Nous avons été contactés par la cellule de reclassement de Cognambo. Malheureusement, la mine va fermer et de très nombreux salariés vont se retrouver sans emploi. Donc on a participé à une réunion pour nous parler d'entrepreneuriat, pour dire que c'est possible, surtout si on peut apporter des solutions pour financer le projet, pour aider dans les démarches administratives, simplement rassurer. Ça permet de débloquer les situations.
L'ADI a donc 3 ou 4 jours après le début des émeutes choisi de se redéployer pour concentrer ses efforts sur les entrepreneurs déjà financés et ou en activité pour prendre connaissance de leurs éventuelles difficultés et leur apporter leur soutien.
Concrètement, on a lancé une campagne de diagnostic auprès de nos clients entrepreneurs. On a pu joindre plus de 2500 d'entre eux pour faire le point. Le constat était clair, au plus fort de la crise, pour 80% d'entre eux, l'activité était totalement arrêtée. Qu'on ne pouvait pas se déplacer parce qu'on n'avait pas accès à ses fournisseurs ou à ses clients, tout simplement, ou plus d'essence en province nord, par exemple. Le constat qu'on peut faire aussi, c'est que, bien sûr, beaucoup étaient très inquiets. Ces appels ont pu déjà leur apporter, je pense, un soutien moral assez fort pendant cette période, pendant les premières semaines de crise. Et puis, on a pu commencer aussi à les conseiller, à les orienter vers les dispositifs d'aide qui ont été mis en place. Nous-mêmes, on a pu déjà aider très directement une partie de ces entrepreneurs. Concrètement, on a mis en place un prêt à taux zéro avec un différé qui va jusqu'à 36 mois, jusqu'à 3 ans, pour pouvoir financer la relance de l'activité à partir du mois de juillet ou à partir du mois d'août, ou même après, pour les entrepreneurs qui ont été impactés.
Alexandre Dufault, directeur des opérations à l'ADI, une aide financière donc pour financer un stock ou de la trésorerie. Concrètement, l'ADI propose également un rééchelonnement des échéances de prêts sur plusieurs mois. L'association affirme avoir pu encore une fois faire le constat de la capacité de rebond des micro-entrepreneurs. L'ADI confirme enfin être présente sur tous ses sites, à Nouméa, à Koumak et en province des îles. Et elle est joignable sur son numéro vert, le 05 05 55 05 05 55, pour répondre à toutes les demandes en ces temps difficiles.
Depuis le début de la crise, les associations caritatives sont très sollicitées, bien que certaines d'entre elles aient aussi subi des exactions. Elles entendent poursuivre leur action auprès des populations les plus fragiles. Dans quelles conditions, avec quels moyens? Ce sera le thème de notre magazine citoyen. Demain à midi, nous serons en compagnie d'Elisabeth Gault, présidente de la Société Saint-Vincent-de-Paul, de Jean-Yves Lemenon, président du Secours catholique, Patrick Chautard, président de la délégation territoriale de la Croix-Rouge et de Betty Levanquet, présidente de la Banque alimentaire. Emmanuel Macron a accepté l'envoi d'une mission du Forum des îles du Pacifique en Nouvelle-Calédonie. Il l'a signifié au président tournant du FIP. Qui la composera? À quel moment est-elle attendue? Et surtout, quel sera son but? Nous en parlerons demain matin. Notre invitée à 7h30 sera Véronique Roger-Lacan, ambassadrice de France dans le Pacifique.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Notre question du jour, approuvez-vous la décision du président de la République de donner son feu vert à l'envoi en août d'une mission du Forum des îles du Pacifique en Nouvelle-Calédonie? Si vous approuvez cette décision, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 31 46. Il est 17h55, nous marquons une première pause dans ce journal avant de développer la suite de l'actualité en Nouvelle-Calédonie. On se retrouve après une courte page de pub.
Du lundi au vendredi sur Radio Rythme Bleu, RRB raconte une histoire aux tout petits vers 19h20.
Raconte-moi une histoire avec Petit Dom, la boutique des tout petits. Petit Dom, c'est aussi et toujours les listes de naissance, de Noël, de baptême et d'anniversaire accessibles sur Internet. Chez Petit Dom, on n'hésite plus, on y va.
La Calédonienne des Eaux vous facilite la vie. Payez directement vos factures en ligne ou demandez le prélèvement automatique. C'est simple, c'est rapide et surtout écologique. Rendez-vous au plus vite sur le site www.cde.nc. Pour vous comme pour nous sur RRB, il n'y a pas de jour sans la Calédonienne des Eaux. Info soir, Isabelle Pelletier.
La crise en Nouvelle-Calédonie n'épargne aucun secteur. EMC Recyclage connaît une baisse d'activité allant de 30 à 50% selon les services, mais tout pourrait reprendre rapidement puisque l'entreprise attend de traiter les 2500 véhicules brûlés sur les routes du territoire pendant les exactions, Léo Fichou.
Les VHU, véhicules hors d'usage, qui servaient notamment de barrage depuis le début des émeutes, ont été enlevés des routes par les forces de l'ordre. Ces 2500 véhicules sont stockés mais ne peuvent pas encore être traités puisque des enquêtes sont en cours pour retrouver notamment les propriétaires. Ensuite, EMC Recyclage pourra les dépolluer et les broyer. Linka Roland, responsable import-export et communication chez EMC Recyclage.
Nous, on n'attend que ça, que les véhicules rentrent sur nos installations. D'une part, d'un point de vue économique, pour maintenir nos emplois. D'autre part, d'un point de vue environnemental, de manière à éviter les risques de pollution. Alors, un véhicule en temps normal qui arrive chez nous sera d'abord traité sur un atelier que l'on va appeler de dépollution, où là, on va traiter le véhicule en y retirant tous les liquides, essence, gasoil, liquide de refroidissement, etc. Une fois cette étape passée, le véhicule va passer sur un deuxième atelier, qui est l'atelier de décorticage, où là, un agent, un opérateur de pelle, va venir retirer les sièges, par exemple, tout ce qui est mousse, le capitonnage du véhicule en plastique, les pneus, le châssis, le moteur, et la carcasse métallique passera ensuite sur une ligne de broyage à ferraille où là, le véhicule sera complètement trié, la ferraille d'un côté, les métaux non ferreux de l'autre et les DIB séparés.
Avec la baisse d'activité que connaît EMC Recyclage, on le disait, moins 30 à 50%, la société pourra, lorsque le temps sera venu, ouvrir une seconde ligne de dépollution. L'objectif, forcément, se débarrasser rapidement des 2500 carcasses qui jonchaient les routes calédoniennes.
Oui, en effet. Alors, un véhicule qui sera complètement calciné nécessitera moins de travail, forcément. Donc, il passera, quoi qu'il arrive, sur cette station de dépollution. Mais là, on aura deux agents, deux stations de dépôt, et donc, on pourra traiter deux fois plus de véhicules qu'en temps normal. On a les moyens humains et matériels pour pouvoir doubler nos effectifs et mettre deux opérateurs de pelle et de pelle à décortiquer.
Tous les métaux seront revalorisés, les liquides récoltés et traités. Enfin, les mousses de sièges notamment seront apportées à la zone d'enfouissement de Gadji.
Et depuis le 13 mai, de nombreux bâtiments ont été détruits, mais on l'espère, l'heure sera bientôt à la reconstruction. Dans ce contexte, certains parviennent à tirer leur épingle du jeu, Léo.
Et oui, c'est le cas d'Isoca. Isoca pour isolation calédonienne, une solution d'isolant un bâtiment pensée il y a près de 4 ans par Aymeric Brun, gérant de la société. Malgré le Covid, puis la crise actuelle sur le territoire, la production a pu démarrer en fin d'année dernière. Isoca casse les codes, finit la laine de verre importée, place désormais à de l'isolant écologique et 100% calédonien. Tout est donc fait ici, sur le territoire. Et les précisions du directeur Aymeric Brun.
J'ai un partenaire qui s'appelle Ecotrans. Il fait de la collecte par tri sélectif chez les professionnels et particuliers. Donc, il me nettoie la matière. Quand elle arrive chez nous, c'est de la matière première. Et nous, on la broie premièrement. Après, on la met dans un raffineur qui nous la défibre. Et on rajoute un adjuvant qu'on appelle sel de bord. Et c'est ce qui nous permet d'être ignifuge et fongicide. Et on produit donc un isolant bâtiment biosourcé à base de carton issu de la collecte du déchet calédonien.
Les avantages d'une isolation à la watt de cellulose sont nombreux. Une réduction des coûts énergétiques, notamment en termes de climatisation, mais aussi une amélioration du confort acoustique. Passer par le commerce local et penser à la planète devient primordial, mais ça prend du temps.
Sur cette réflexion écologique, on y vient... en s'informant et puis en ayant une démarche responsable. C'est vrai qu'aujourd'hui, chez nous, on a plus tendance à enfouir le déchet. Il y a une certaine dynamique qui tend vers la valorisation des matières aujourd'hui en Nouvelle-Calédonie. Donc on voulait en être, on n'est pas les premiers, on ne sera pas les derniers. Donc voilà, cette dynamique, si elle peut s'installer et s'inscrire de façon plus pérenne dans le pays, ce n'est que mieux. Et puis on essaiera d'être un acteur de plus en plus incontournable.
Isoca propose donc un produit destiné à tout type de travaux, un produit 100% calédonien. Aymeric Brun l'affirme, son rapport qualité-prix défie toute concurrence. L'isolant est notamment utilisé, par exemple, dans les villas du groupe Tropic, situé à Magenta, en face de l'ancienne polyclinique.
La campagne des inscriptions scolaires dans les écoles primaires publiques de la province sud touche bientôt à sa fin. Vous avez jusqu'au 31 août pour garantir une place à vos enfants. Cette année, tout se passe en ligne sur le site internet de la province sud. Les détails avec Marie-Laure Kiwé, directrice adjointe du pôle éducation à la province sud.
On a encore beaucoup de familles qui ne sont pas encore répertoriées. C'est vraiment pour les enfants qui font sûrement la première rentrée en petite section et qui sont âgés du coup de 2 ans et 9 mois, c'est-à-dire qu'ils sont nés avant le 31 mai 2022. Concernant les pièces à fournir, il faut absolument les justificatifs d'identité, c'est-à-dire un extrait d'acte de naissance, le livret de famille ou une pièce d'identité de l'enfant, ainsi qu'un justificatif de domicile et un certificat médical qui explique que l'enfant est apte à vivre en collectivité. Ces informations, elles sont sur le site de la province sud.
Des inscriptions qui s'effectuent donc en ligne. Toutefois, en cas de problème, les agents de la province sud restent joignables au 20 49 71, le 20 49 71 pour répondre à vos questions. Les enfants du territoire entament ce lundi leur deuxième semaine de vacances. Au Mont-d'Or Sud comme ailleurs, certains parents ont inscrit leurs petits en centre de loisirs. Difficile pour eux de s'organiser compte tenu des circonstances. Seule l'association des piroguiers du Mont-d'Or a pu ouvrir ses portes, Charlotte Coulson.
Et oui, le centre n'avait pas pu rouvrir en juin, faute de sécurisation des voies de circulation dans la zone. Cette fois, les conditions sont réunies pour accueillir de nouveau les enfants. Une reprise du centre qui n'aurait pas été possible sans un réel travail de collaboration entre les membres de l'association, ainsi que les animateurs, le transporteur et bien sûr les familles. C'est ce qu'explique Pascale Poignewa, directrice du centre de loisirs et secrétaire bénévole de l'association des piroguiers du Mont d'Or.
Les infrastructures de l'association sont sur la partie sud, donc Dieu merci, elles ont été épargnées, donc du coup nous avons pu rouvrir. Nous on met en place un transport, donc on travaille occasionnellement avec ce transporteur et donc du coup lui habitant la coulée, il a pu nous transporter les enfants jusqu'au centre tous les jours et les ramener en fin d'après-midi chez eux. Il y a même des parents qui nous ont appelés tous les jours en nous disant si vous voulez on change nos enfants de semaine pour que vous puissiez avoir le nombre minimal pour ouvrir. Franchement je veux dire, les parents ont été d'un grand soutien. Et comme l'association a des animateurs qui habitent sur cette partie sud de la ville, ça ne nous a pas posé souci pour avoir les animateurs qu'on avait d'habitude.
Et de son côté, l'association a mis en place des tarifs préférentiels pour soutenir les efforts des familles. Le prix de la semaine est passé de 13 000 francs à 11 000. Grâce à cette solidarité, le centre a pu notamment accueillir la semaine dernière 38 enfants et ce lundi 28. Un soulagement pour les parents comme pour les enfants qui peuvent oublier le temps des vacances, l'isolement qu'ils subissent au Mont-d'Or Sud.
On avait fixé un minimum de 25 enfants et la semaine dernière, donc, l'association a reçu 38 enfants et cette semaine, on continue avec 28 enfants inscrits aujourd'hui. Ce sont que les enfants des administrés qui habitent de la coulée jusqu'à Ploum. C'est toujours un nombre inférieur, mais on s'est dit on va ouvrir parce qu'il y a des parents qui sont obligés de repartir travailler. Et puis nous, c'est aussi pour changer un petit peu le quotidien des enfants et surtout les mettre, on va dire, au contact d'autres enfants et d'oublier un petit peu ce que tout le monde a vécu et qui vivent vraiment leur vie d'enfant.
Et cette semaine, ils continueront leurs activités autour d'une thématique spéciale, les Jeux Olympiques.
L'Aquarium des Lagons attire de nombreuses familles lors de ses vacances scolaires. Des visites guidées et des ateliers sont proposés chaque jour. Une aubaine pour les parents qui profitent de la balade avec leurs enfants.
On est venu visiter l'aquarium avec notre petit bout de chou qui a un an pour qu'elle découvre les poissons de la Calédonie.
C'est pour la balade, pour les vacances, sortir un peu, profiter, il aime bien les poissons.
On a choisi l'aquarium parce que le lundi, il n'y a pas grand-chose et que chez nous, il faisait pas super beau. Donc on s'est dit qu'on va faire quelque chose en intérieur.
La semaine dernière, elle était, puis cette semaine, elle reste avec maman, donc balade à vélo jusqu'à l'aquarium. On prend un enfant à chaque fois, comme ça, c'est plus facile. Et ça les détend, en fait. Je le trouve assez intéressant, assez petit pour eux, pour pas être trop fatigant.
Tout au long de la semaine, des activités sont proposées sur des thèmes différents, l'occasion de sensibiliser les enfants sur l'environnement marin. C'est ce qu'explique Joséphine, animatrice à l'aquarium.
C'est les vacances scolaires et du coup on a mis en place les matins vacances pendant les deux semaines et en fait tous les matins on accueille des enfants, donc c'est deux groupes de 10 enfants, un pour les 7-10 ans et un pour les 11-14 ans, et chaque matin il y a un thème différent pour en apprendre plus sur l'environnement marin. Donc par exemple aujourd'hui c'est sur les tortues marines, après on a un thème sur les coraux, les serpents marins, il y en a un autre sur les mammifères marins et vendredi c'est sur les requins et les raies.
Les enfants ont donc nourri les tortues ce matin à l'aquarium du lagon. On écoute leur témoignage.
On est allé dans la salle et après on a parlé des tortues, qu'il faut pas polluer la mer et qu'il faut pas rouler avec des voitures sur la plage. Après on a nourri les bébés tortues avec des crevettes et un peu de poisson. Et après, on a nourri les grandes tortues avec du brocoli.
J'ai choisi parce que j'aime beaucoup tout ce qui est marin et tout. Et j'aimerais bien être biologiste marin plus tard.
J'ai appris quelque chose sur leur cycle de vie, leur nourriture.
Je trouve l'aquarium déjà super bien, mais apprendre encore des choses, c'est encore mieux.
Des propos recueillis par Sarah Mégery. Et puis notez que demain matin, l'Aquarium des Lagons propose un atelier autour du corail, des méduses et du plancton. 18h06, nous marquons une seconde pause dans ce journal avant de passer au sport. On parlera bien sûr du clap de fin des JO et puis de l'arrêt des compétitions de football en Calédonie. A tout de suite.
Spécial info jeu SMS sur RRB, le jeu du million 40-20 change de formule. Maintenant, c'est tous les 1500 SMS pile sur le compteur pour gagner 100 000 francs de bons d'achat à dépenser où vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Alors pour jouer, envoyez RRB par SMS au 40-20. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 40-20. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 40-20. Bonne chance.
Des rats autour de chez vous? Pensez Formula 4D. N'attendez pas qu'ils évoluent à l'intérieur. On vous propose un traitement adapté pour les éradiquer. Plus d'infos sur formula4d.com.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal et c'est du sport, Isabelle Pelletier.
Oui, et le sport, c'est d'abord la fin des Jeux Olympiques de Paris 2024. La cérémonie de clôture avait lieu ce matin.
Les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et le camp tricolore termine à la 5e place du classement des médailles avec 16 médailles d'or, 26 médailles d'argent et 22 médailles de bronze sur 64 podiums. La France a rayonné à travers les compétitions, autant d'un point de vue sportif que pour délivrer un message de paix. Nous en avons parlé ce midi dans le Mag des Sports avec Christophe Dabin, le président du CTOS de Nouvelle-Calédonie. Il était notre invité.
Moi, je dirais formidable et spectaculaire. Et surtout, je crois que ce qu'il faut retenir, c'est ces 19 jours, parce que même si les compétitions durent un petit peu plus longtemps, moi, je crois qu'il faut, c'est la ferveur des supporters français. Ce qu'il faut retenir de ce que le président Siou a dit, c'est une culture de la paix. Et je crois qu'on ne peut pas arrêter les conflits, mais on peut peut-être contribuer à ce que la paix soit plus présente sur notre planète. Et par rapport à ce qu'on vit aujourd'hui, avoir de tels moments de joie, de bonheur, je crois que c'est ça qu'il faut retenir. Moi, c'est mon espoir aujourd'hui de dire, eh ben, on y va. Au-delà du nombre de licenciés qui augmentent ou qui n'augmentent pas, c'est que nos jeunes et nos moins jeunes reprennent les terrains et reprennent l'activité sportive fédérale sur le territoire. Alors, c'est vrai qu'il y a eu énormément d'argent qui ont été investis pour ces Jeux. Et il y avait ce qu'on avait mis en place au niveau de la métropole, c'est cette culture de la performance qui est quand même quelque chose de nouveau. Mais ensuite, on attend une chose, c'est qu'à la suite des Jeux, il va y avoir une braderie. Une braderie par rapport à pas mal de matériel sportif. Donc on a déjà, on s'est déjà positionné, au niveau donc autant de l'ANS, du comité organisateur et du CNOSF pour voir. Et ça nous permettra peut-être de remplacer un peu de matériel qui a été brûlé ces derniers temps.
Rappelons que 5 Calédoniens étaient engagés dans les compétitions. Maxime Grousset, Emma Terebo, Yolène Yengo, Nicolas Goyard et Bassam Aouem. Ils seront encore 3 au sein de l'équipe de France d'athlétisme handisport avec les Jeux Paralympiques de Paris qui débuteront à partir du 28 août.
C'était les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Fin de saison pour le football calédonien. Les compétitions officielles de foot sont interrompues. C'est ce qu'a annoncé ce matin la Fédération calédonienne, Léo Fichou.
C'était attendu et après le retard pris durant les 3 mois de suspension en raison de la crise des émeutes, un arrêt qui marque la fin des championnats, tous les championnats. Il n'y aura donc pas de champion cette année, mais peut-être un représentant pour participer à la O-League, la Ligue des champions d'Océanie. Les précisions de Gilles Tavergeux, président de la Fédération.
Les compétitions sont arrêtées, c'est-à-dire la Super League garçon, Super League futsal, le championnat féminin aussi est arrêté, les championnats de jeunes sont tous arrêtés. Et donc voilà, on va maintenant se retourner vers l'OFC et la FIFA et également la 3F pour essayer de savoir comment on peut désigner nos représentants aux compétitions, un à la Coupe de France et les 3 autres, c'est-à-dire aux ligues océaniennes. On a eu quand même pas mal de discussions à travers la commission d'organisation, la COC, là, qui s'est réunie avec les clubs, avec les provinces et tout. Donc voilà, pour eux, la meilleure solution, ce serait celui qui est en tête du classement actuel. Mais rien n'est décidé définitivement. Là, si on reste sur cette proposition de la COC, ce serait TIGA, mais après, voilà, il faut voir aussi le club si financièrement il peut y aller.
Pour autant, les compétitions internationales doivent encore être jouées. Les déplacements ont été financés. En septembre, les moins de 16 ans féminines iront jouer aux Fidji. Les hommes, eux, la sélection calédonienne senior disputera les qualifications pour la Coupe du Monde 2026. Ce sera en octobre et en novembre prochain.
Merci Léo. Les 18h12, c'est presque la fin de ce journal. Nous allons maintenant passer à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et cette météo, c'est avec vous qu'on la voit, Nicolas.
Alors, cette nuit, le ciel restera chargé, mais la couverture nuageuse se morcellera par endroits. Les averses feront plus rares et se contenteront peu à peu à la façade est. Le vent se renforcera sur Bélep, le nord-est, entre 25 et 30 nœuds, avec des rafales de 35 à 40 nœuds. Ailleurs, le lit soufflera entre 20 et 25 nœuds, avec des rafales autour de 30 à 35 nœuds. Les températures minimales évolueront peu et s'échelonneront de 18 à 22 degrés, mais descendront jusqu'à 13-14 degrés sur l'eau. Ouest et à marée. Demain matin, les nuages élevés filtreront simplement le soleil par endroits, avec quelques éclaircies, notamment sur l'ouest. L'alizé d'est-sud-est soufflera proche de 25 nœuds, avec des rafales à 35 nœuds en général. En revanche, il sera plus faible sur le nord-ouest, avec 15-20 nœuds, Isabelle.
Merci beaucoup Nicolas pour la météo et pour votre accompagnement technique. Il est 18h13, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure à 19h pour un nouveau point sur l'actualité locale. Mais tout de suite, l'information continue avec le journal d'Europe 1 suivi de l'interview dont l'invité est ce soir Jean-Christophe Couvi, secrétaire national Unité SGP Police. Belle soirée à vous tous.